La parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, où nous lirons ensemble à partir du verset 23. Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Amen. Voilà. Alors nous voyons depuis le premier verset, 23, de notre lecture, jusqu'à celui-là, que le thème majeur, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On voit cela, ça ressort bien. C'est un des grands thèmes de cet évangile de Jean, et tout au long, il en est parlé, quand on sait que cet évangile, c'est certainement celui qui est peut-être le plus fouillé, le plus profond des quatre évangiles, on mesure l'importance du sujet. Ça commence déjà dans le chapitre 1, verset 14, là où il est marqué, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. » Chapitre 2, verset 11, noces de Cana, il est marqué « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». Au chapitre 5, au verset 44, le Seigneur reproche donc à certains de ses auditeurs « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Et un peu plus loin encore, au chapitre 7, au verset 18, il est marqué « Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai ». Il n'y a point d'injustice en lui. C'est à lui-même qu'il fait référence en parlant ainsi. Chapitre 8, verset 54, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » Dans une discussion, une contestation avec ses adversaires. Chapitre 11, verset 4, et là, c'est au moment de la résurrection de Lazare, donc il est marqué là, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. » Nous savons comment cette résurrection admirable s'est opérée. Nous voyons ainsi que, dans notre passage, c'est la septième fois que Jésus parle de la gloire de Dieu dans tout l'évangile de Jean, dans notre texte. Et quand on sait que dans les écrits d'apôtre Jean, les nombres ont quand même une importance, sont significatifs, c'est un premier élément pour nous montrer l'importance de notre passage. Rappelons toujours que le but ultime de Dieu dans toutes ses actions, dans toutes ses paroles, dans toutes ses œuvres, ce but ultime, c'est sa gloire. Le plus grand but, ce n'est pas le salut des âmes, même si Dieu a évidemment ce but très à cœur, plus que la personne d'entre nous qui l'aurait le plus à cœur l'est. Le but principal de Dieu, c'est pas le témoignage, c'est pas l'Église, quoique bien sûr tout cela soit important, très important, et très important à ses yeux aussi. Mais je dirais que quelque part, toutes ces choses sont subordonnées au fait qu'au-dessus, il y a la gloire de Dieu, et qu'au travers, il y a la gloire de Dieu. C'est pour ça que 21 fois, dans ces 21 chapitres de l'Évangile de Jean, il nous est parlé de la gloire de Dieu. Déjà, une première remarque. Ensuite, une deuxième remarque qui est frappante et importante, c'est qu'au verset 23, il a dit « L'heure est venue ». Et donc, notre texte est important pour une autre raison, parce que jusque-là, l'heure n'était pas encore venue. C'est très clair, on le voit. Auparavant, bien d'autres avaient cru que c'était l'heure, que l'heure arrivait à un certain moment. Rappelez-vous, au mot de noces de Cana, donc Marie est venue vers son fils, et puis à ce moment-là, il lui a répondu, parce qu'elle pensait qu'il fallait qu'il intervienne d'une façon ou d'une autre. Jean chapitre 2, verset 4, il lui a répondu, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Hein? Donc, voilà. Et puis après, nous savons qu'il a accompli ce miracle de changement de l'eau en vin. Dans Jean chapitre 4, verset 21, il dit encore, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Hein? Donc là aussi, l'heure n'est pas encore venue, mais elle vient. Jean chapitre 4, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, ce n'était pas encore le cas, mais c'est comme ça commençait déjà à être le cas. Hein, c'est déjà en train. Jean chapitre 5, verset 25. Je vous le dis en vérité, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Hein, ça, c'est donc la quatrième référence à cette question. Jean chapitre 7, verset 30. Personne ne mit la main sur lui. Parce que son heure n'était pas encore venue. Vous voyez bien qu'il y a une heure qui doit venir. Hein? Et l'insistance est mise encore un peu plus loin. Jean chapitre 8, verset 20. Personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Et ces six passages que nous venons de citer nous parlent d'une heure qui vient. Pour certains d'entre eux, dans une certaine mesure, on le voit, c'était déjà en route, mais pas encore pleinement accompli. Mais dans le septième passage, il nous est bel et bien dit que cette heure fameuse, cette heure tant attendue, cette heure, donc, est enfin arrivée. Et ce n'est pas un hasard, encore une fois, si c'est la septième fois que ça se trouve ici, nous sommes en présence d'un passage clé, d'un passage charnière dans l'œuvre et dans le message de Jésus-Christ. L'heure est venue maintenant, en quelque sorte, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si on veut donner toute la force au texte original grec, on pourrait intercaler encore maintenant ici. Voilà. Et puis nous avons une troisième remarque. Troisième remarque, c'est que dans le verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle ce passage est très important. Amen, amen. En vérité, je vous le dis. C'est une expression donc que Jésus utilise lorsqu'il va introduire des choses solennelles, des choses particulièrement importantes. Alors pourquoi est-ce qu'il introduit, je dirais, cette petite leçon de science naturelle hein, qu'on voit là au verset 24 par ces paroles hein. Donc en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Hein, donc, et bien, pour en montrer l'importance, et aussi quelque part, pour couper les rêves dorés et remplis de gloire de ses disciples, mais je dirais de propre gloire. Hein. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons ce qui s'est passé un petit peu avant, eh bien, nous savons que déjà entre eux, ils étaient en train de se disputer pour savoir qui aurait les meilleures places dans le royaume à venir, qui serait le plus grand, qui serait assis à la droite de Jésus, qui serait assis à sa gauche. Hein. Et puis, il y avait eu aussi un petit peu avant, juste avant l'entrée triomphale à Jérusalem, hein, aux acclamations de la foule. Ben pourquoi? Parce que les gens se communiquaient le récit de la résurrection de Lazare. Hein, donc c'était quelque chose, cela. Et puis après, ça leur rappelait d'autres miracles qui s'étaient produits. Et les disciples étaient encore tout grisés par les applaudissements et les vivats. On voit cela de verset 12 au verset 20. J'ai pas lu le passage, mais c'est juste avant notre texte. Et du verset 21 jusqu'au verset 23, il est même question que les étrangers viennent et demandent à voir Jésus. Et déjà, les disciples se voyaient en train de caresser des rêves de gloire plus ou moins mondiale. Hein, donc, c'est ce qu'ils auraient pu interpréter dans ce que Jésus leur avait dit par moment. Alors, même si Jésus n'avait pas parlé de cette manière-là. Alors, on peut s'imaginer que les paroles de Jésus à ce moment-là ont fait l'effet d'une douche froide. Hein, et Jésus va dévoiler donc aux oreilles de ses disciples ne comprenant pas sur le coup, de ses disciples désorientés, il va leur dévoiler quel est le véritable chemin de Dieu, quel est le véritable moyen d'accomplir l'œuvre de Dieu, quelle est la véritable façon pour que la gloire de Dieu se manifeste, et c'est tout différent de leurs rêves et tout différent de leurs pensées. Et ça nous amène à notre quatrième remarque. Donc, que nous pouvons développer à propos du chemin, oui, du chemin du grain de blé, j'allais dire, hein, parce que c'est cela. Hein, donc, le chemin de la gloire, c'est le chemin du grain de blé. Et le chemin du grain de blé, c'est quoi? C'est la mort. Hein, c'est la mort, tout simplement. Hein. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée, il faut que Jésus meure. Voilà. Déjà, il prend son propre cas. Hein. raconte que le plan d'Aloès en Afrique, c'est un plan qui grandit pendant une centaine d'années avant de porter du fruit pour la première et unique fois. Hein, donc, et c'est alors qu'un bourgeon magnifique apparaît. En haut, il éclate un jour en une multitude de fleurs, et vous avez là la reine des plantes tropicales, la reine des plantes florales des tropiques, et vous avez en même temps le sacrifice de la plante à la fleur, parce qu'elle ne fleurit qu'une fois, puis elle meurt en fleurs, mais à l'endroit où ces fleurs tombent, à l'endroit où ces fleurs se fanent, naissent des plantes nouvelles qui vont multiplier mille fois la vie, hein, de cette vie qu'il y avait au départ. Et ça, c'est une image de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus, qui lui s'est élevé aussi comme une faible plante, a-t-il dit. Hein. C'est le prophète Ésaïe qui nous dit cela, au chapitre 53, qu'il annonçait ainsi déjà 8 siècles avant sa venue. Donc, et nous savons que la vie du Seigneur a grandi merveilleusement, elle s'est épanouie pleinement, je dirais dans le plus grand des sacrifices. Hein, donc, et ce sacrifice n'a duré que peu de temps, mais il a été parfait, et grâce à lui, eh bien, la vie de Dieu s'est répandue et répandue sur tous ceux qui s'approchent de lui. Amen. Amen. On raconte que le pélican du désert va chercher très loin à boire pour ses petits. Donc, il leur apporte cela dans son large bec. Et de la même façon, même chose pour. Il va pêcher aussi pour eux de la même façon. Et puis, vient une période de sécheresse, vient une période de famine, eh bien, un des réflexes de ce pélican, c'est de se percer le flanc pour que ses petits puissent boire de son sang. Hein, boire de son sang, parce que de sa propre vie, bon, il ne la sacrifie pas complètement, mais en tout cas suffisamment pour qu'il puisse survivre et puis qu'il puisse avoir ainsi ensemble une chance, une dernière chance de malgré tout s'en tirer. Et le Seigneur Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous savons que Jésus a porté ainsi un fruit abondant de pardon, de grâce, de salut, de miséricorde, et en même temps aussi de puissance et de bénédiction pour nous. Amen. Et puis insistons aussi sur le fait, notre cinquième remarque maintenant, c'est également le chemin des disciples de Jésus. Hein, parlez aussi de cela dans notre texte. C'est notre chemin, si nous voulons avoir la vraie vie et produire la vie de Dieu par son secours. Hein. Donc, qu'est-ce qui est dit sur l'attitude du disciple ? Il est question pour lui, au verset 25, de haïr sa vie dans ce monde. Il est question, au verset 26, de servir le Seigneur. Il est ce même verset, il est question de suivre Jésus et de se préoccuper d'être là où Jésus veut qu'on soit, et non pas de vouloir tirer Jésus là où on veut aller. Voyez-vous, hein, donc, là où je suis, là aussi sera mon serviteur, dit le Christ à ce moment-là. Hein. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire haïr sa vie dans ce monde ? Est-ce que ça veut dire détester toutes les belles choses qu'il peut y avoir dans la création ? Non pas, bien sûr, parce qu'il y a, Dieu merci, encore dans la création, même rendue infirme, même entachée par le péché, il y a encore de belles ruines et encore de belles traces, des traces magnifiques de l'œuvre du Créateur. Hein. Nous voyons cela, nous devons et pouvons et devons bénir Dieu pour cela. Mais ce que nous devons haïr, c'est le train de ce monde, voyez-vous. Hein. Ce que nous devons accueillir, c'est cette mentalité qui se détourne de Dieu, qui va utiliser toutes sortes de stratagèmes pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu, pour nous empêcher de servir le Seigneur. Et il peut y avoir là des choses qui peuvent être tout à fait innocentes par elles-mêmes, qui peuvent même être très légitimes. Ce ne sont pas ces choses elles-mêmes qui sont en jeu. Mais c'est la motivation qu'on a pour les pratiquer, c'est la façon, la mentalité, l'état d'esprit hein, de qu'on a. Et vous savez, ça voudrait nous entraîner à profiter de l'existence, comme on dit. Mais on a combien de vies, mes amis ? On n'a qu'une, hein ? On n'a qu'une existence, on n'a qu'une vie. Alors il faut réfléchir ce que nous devons faire de cette vie. Hein, non, pas le temps de perdre à des trivialités, de le perdre à des vanités. Ben, il nous faut considérer ce qui est vraiment primordial, ce qui est véritablement le plus important. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il est marqué, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et je dirais que c'est là que commence quelque part la mort du grain de blé, la mort à nous-mêmes. Ça consiste à faire taire nos envies, nos désirs propres pour mettre le désir et la volonté de Dieu en premier. En priorité. Chercher quelle est la volonté de Dieu, quel est son chemin. D'ailleurs, on va s'apercevoir après que c'est le meilleur, en fait, pour nous. Hein. On va réaliser cela. Hein. Parce que tellement souvent, les gens voudraient que Jésus les suive. Ou au moins qu'eux puissent marcher à côté de lui. Et puis que, de temps en temps, le Seigneur écoute notre conseil, n'est-ce pas hein. Donc, on voudrait aller avec Jésus, bien sûr, mais on voudrait que Jésus vienne avec nous, là où on veut aller, nous. Voilà, hein. Trop souvent, c'est comme ça. Et je dirais que là se fait la différence entre celui qui sert Jésus et les autres. Hein. Rappelez-vous ce qui est arrivé au disciple Pierre, lorsqu'il était en train de devenir l'apôtre Pierre, dans Jean chapitre 21, verset 8, le Seigneur lui a dit « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Eh oui, c'est vrai cela. Et la question c'est ça, est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus, même quand il nous mène là où, comme ça, au premier abord, on ne voudrait pas? Hein, ben, voilà, peut-être dans un travail, je ne sais pas, ou dans un endroit, ou avec une compagnie, des gens qu'on apprécie peut-être pas forcément, comme ça au premier abord, je ne sais pas, hein, toutes sortes de situations, et puis notre confiance sera de dire, mais Seigneur, si c'est ta volonté, c'est que c'est effectivement le meilleur, à la fois pour moi, pour eux, hein. Et on va s'apercevoir, effectivement, si on le fait, si on place notre confiance dans le Seigneur pour cela, on va s'apercevoir que ça va tourner à notre meilleur. Béni soit son nom. Amen. Hein? C'est Campbell Morgan, donc, qui entendait l'appel du Seigneur alors qu'il était en train de prier. Il s'est tourné vers le Seigneur de tout son cœur et Dieu lui a parlé. Il était à ce moment-là donc un étudiant dans une école biblique. Et il était en train de prier, puis voilà que Dieu s'est adressé très clairement à lui et lui a dit « Est-ce que tu veux devenir mon serviteur ou un grand prédicateur ?» Est-ce que tu veux devenir mon serviteur ou un grand prédicateur ? Lui, il a pensé en lui-même quoi ? Pourquoi pas les deux ? Hein ? Voilà. Et puis un moment de silence, et puis la même question est revenue encore avec plus de force. Plus de force, c'est-à-dire qu'il a compris que ce que Dieu attendait de lui, c'est qu'il abandonne toute ambition personnelle. C'est qu'il abandonne les projets qu'il pouvait avoir en ce qui concerne son service pour Dieu. Et alors, il a dit, ben oui, il a prié, il a dit, Seigneur, je veux devenir ton serviteur. Même s'il me faut travailler toute ma vie obscurément, sans être vu ni connu de personne. Et Dieu l'a pris au mot, vous savez, Dieu nous prend au mot. Hein. Il l'a pris au mot, il l'a mis dans une telle situation, pendant tout un temps. Puis voyant qu'effectivement il tenait ferme et puis que ça ne le ralentissait pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, eh bien il en a aussi fait un grand prédicateur dans la suite. C'était sa volonté, puis ça ne lui a pas monté à la tête, voyez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait le sacrifice de sa vie et il savait que c'était par le Seigneur et pour le Seigneur que c'était rendu possible. Amen. Voilà. Et le chemin du serviteur de Dieu par lequel la gloire sera manifestée, la gloire du Seigneur sera manifestée, c'est un chemin de mort à soi-même. Hein, c'est un chemin de renoncement au profit personnel, de renoncement à soi-même, en ayant confiance que le Seigneur va en tirer sa gloire et le meilleur pour nous. Amen. Et puis, voyons maintenant encore donc la façon dont le grain de blé croît. Hein, puisqu'il est question du grain de blé, voilà les conditions dans lesquelles s'effectuent semailles et moissons en Palestine, Moyen-Orient, sont un petit peu les suivantes. Donc, avant l'époque des semailles, vous avez ce qu'on appelle la pluie avancée. Donc, cette pluie qui va quelque part attendrir le sol dur et souvent surchauffé, et va préparer ainsi les semailles et permettre que le grain puisse pousser rapidement et continuer à croître pendant quelques mois, puis tout à coup, disons à un moment, il semble s'arrêter. Parce que maintenant, la maturité va dépendre d'une autre pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. la pluie de l'arrière-saison, donc, et si cette pluie tarde trop, eh bien, les tiges vont tourner au jaune, elles vont prendre une apparence sèche, ratatinée, et c'est pour ça que le cultivateur attend anxieusement la pluie de l'arrière-saison. Et là aussi, nous avons une image nous concernant. Je dirais que la pluie avancée, c'est l'effusion du Saint-Esprit dont le Seigneur nous fait bénéficier au départ. Hein. Quand on se tourne vers lui, alors il y a là des grâces excellentes, il y a des bénédictions particulièrement encourageantes et fortifiantes. Et puis, il suit bien souvent une période, je dirais, plus de sécheresse, en tout cas apparemment de sécheresse. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas une négligence, un oubli de la part de Dieu, non, parce qu'il faut que nous apprenions à plonger nos racines maintenant dans la profondeur de la vie de foi. Hein, donc, c'est un temps d'épreuve et nous avons besoin d'être éprouvés, nous avons besoin d'être affermis. C'est pour ça qu'il est marqué, par exemple, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or pour l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. » Mais malgré tout, il n'est pas normal que cet état de choses dure sans qu'il y ait la vie de Dieu, l'arrosage de Dieu par le Saint-Esprit qui vienne aussi sur nos vies par après. La volonté de Dieu, c'est que malgré tout, il puisse y avoir encore une abondance qui vienne dans nos vies. C'est pour ça qu'il est marqué que nous pouvons demander à l'Éternel d'envoyer cette pluie. D'envoyer cette pluie de son esprit, hein, parce que c'est pas normal, je dirais, de se retrouver, de ne pas retrouver, par exemple, le feu du début, hein, de ne pas retrouver le premier amour du début. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une effusion du Saint-Esprit et qu'elle soit de plus en plus grande sur nous. C'est pour ça que dans le prophète Zacharie, au chapitre 10, il est écrit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. » Alléluia. Alléluia. Et puis une septième et dernière remarque, c'est le trouble de Jésus, qui est aussi celui qui nous attend, quelque part. Hein. Et puis ça aboutit malgré tout à l'approbation divine qu'on verra en conclusion. Mais donc, verset 27, 28, « L'âme de Jésus est troublée. » Pourquoi est-ce qu'elle est troublée? Parce que Jésus sait ce qu'il attend. Jésus sait ce qui va se produire pour lui lorsqu'il va devoir mourir sur la croix. Il sait ce qu'il va devoir affronter. Lui, il est au courant des terribles enjeux spirituels qu'il y a derrière cela. Il est au courant du fardeau de culpabilité abominable qu'il va devoir porter, les péchés de toute l'humanité. Hein, il est au courant de ce châtiment, de cette séparation terrible d'avec Dieu, avec le Père, qu'il va devoir subir. Hein, donc, plus tard, il s'écriera « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est au courant de ces choses qu'on ne peut même pas décrire avec des mots, mais qui sont véritablement quelque chose d'inimaginablement terrible. Donc, et c'est pour cela qu'il est marqué « mon âme est troublée ». On peut comprendre qu'il dise cela. Et c'est vrai, là aussi, certains diront quel trouble extraordinaire, parce que celui qui savait toujours exactement que demander au Père, le voilà qui hésite. Le voilà quelque part qui ne sait comment prier. C'est la prière de son âme. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Eh oui, il aurait pu dire cela. Et s'il avait fait, eh bien, à l'instant, plus de douze légions d'anges seraient intervenues, s'il avait fallu, pour arrêter cette marche inexorable vers la croix. Mais le plan de salut aurait été arrêté. Le plan de salut ne se serait pas accompli et la vie n'aurait pas pu se répandre sur nous, en particulier sur ceux qui croiraient en lui. Il fallait qu'il meure pour que la vie vienne. C'était nécessaire. Et puis, il y a eu cette prière qui était sa vraie prière. Hein. Il a posé la question de la prière qu'il aurait pu dire, mais qu'il n'a pas dite en fait. Et la vraie prière, c'est celle-là. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Voilà. Et donc, ça veut dire que le trouble est surmonté. Ça veut dire que le trouble est surmonté, et je dirais que quelque part, nous pouvons aussi connaître cela à une échelle évidemment beaucoup moindre, beaucoup plus petite, quand il s'agit de donner toute notre vie au Seigneur, avec les sacrifices que cela comporte. Alors c'est vrai, notre âme se trouble, nous hésitons, nous pouvons même penser à nous retirer, vous en avez même certains qui le font, mais c'est la condition de la bénédiction, c'est la condition de la vie en nous et de la vie portée autour de nous. Et c'est pour ça, et c'est une question de foi aussi, hein, parce que vous savez, le diable aussi, il aime bien exagérer les choses, hein, pour nous détourner du Seigneur. Il aime bien calomnier Dieu aussi, hein, en nous faisant croire que Dieu veut mettre sur nous des interdictions terribles ou des obligations terribles, et puis alors que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent, qu'elles se font, et puis surtout, il veut nous cacher la bénédiction et le salut qui viennent par après, hein, qui viennent en conséquence de cela. Donc, en conclusion, que voyons-nous? En conclusion, eh bien, le dernier verset de ce passage, c'est celui de la voix de l'approbation divine. Chaque fois que le Fils accomplit un grand acte de consécration personnelle ou d'abaissement, comme ici, le Père répond, on le voit, répond par une manifestation sensible d'approbation. Hein, c'est ce qui s'était produit, rappelez-vous, au baptême de Jésus, lorsque Jésus a été baptisé, le ciel s'était ouvert et la voix du Père s'était fait entendre. Ça s'était produit aussi à la transfiguration, donc, et ça se renouvelle donc encore maintenant. Le Père approuve publiquement l'œuvre et la personne de son Fils. Amen. Hein. Et combien il est important qu'il puisse en être de même aussi pour nous, donc que nous puissions savoir que l'acceptation de mourir, eh bien, c'est ça qui entraîne la vie. Alléluia. L'acceptation de servir, eh bien, ça entraîne aussi les honneurs de la part du Père. L'acceptation de suivre Jésus, c'est de bénéficier toujours de sa présence. Et ça, c'est véritablement le meilleur. Béni soit son nom. Amen. Te remercions, Seigneur, de ta grâce encore. Te remercions de ta parole si importante et si précieuse pour nous, Seigneur. Te remercions de ce que tu as accompli pour nous, jamais assez, Seigneur. Nous pourrons manifester notre reconnaissance pour la grandeur de ce sacrifice qui a été offert, afin que nous puissions être tirés des ténèbres et amenés à la lumière, et que nous puissions passer de la puissance de Satan à Dieu. Merci, Seigneur, et merci, mon Dieu, pour la bonne œuvre que tu fais encore, et merci pour le soutien et l'accompagnement que tu donnes à la prière de chacune et de chacun d'entre nous maintenant. Amen.